Charles IV n'était guère en capacité de refuser, et trouvait même du soulagement à ce qu'on le délivrât de tout souci. Il ne songeait qu'à retenir sa vie qui lui fuyait entre les dents. Philippe de Valois reçut donc la délégation royale et lança l'ordre de convocation des pairs. Robert d'Artois aussitôt se mit en campagne. D'abord auprès de son neveu d'Évreux, garçon jeune encore, 21 ans, de gentille tournure, mais assez peu entreprenant. Il était marié à la fille de Marguerite de Bourgogne. Jeanne la Petite, comme on continuait de l'appeler, bien qu'elle eût à présent 17 ans, et qui avait été écartée de la succession de France à la mort du Hutin. La loi salique, en fait, avait été inventée à son propos, et afin de l'éliminer, ceci d'autant plus aisément que l'inconduite de sa mère jetait un doute sérieux sur sa légitimité. En compensation, et pour apaiser la maison de Bourgogne, on avait reconnu à Jeanne la Petite l'héritage de Navarre. Mais on s'était peu hâté de tenir cette promesse, et les deux derniers rois de France avaient gardé le titre de roi de Navarre. L'occasion était belle pour Philippe d'Évreux, s'il avait ressemblé tant soit peu à son oncle Robert d'Artois, d'ouvrir là-dessus une énorme chicane, de contester la loi successorale, et de réclamer au nom de sa femme les deux couronnes. Mais Robert, usant de son ascendant, eut vite fait de rouler comme un poisson en pâte ce compétiteur possible. « Tu auras cette Navarre qui t'est due, mon bon neveu, aussitôt que mon bon frère Valois sera régent. J'en fais une affaire de famille, que j'ai posée en condition à Philippe pour lui apporter mon appui. Roi de Navarre, tu vas être. D'une couronne qui n'est pas à dédaigner et que je te conseille pour ma part de te mettre au plus tôt sur la tête avant qu'on ne te la vienne discuter, car, parlons bas, la petite Jeanne, ton épouse, serait mieux assuré de son droit si sa mère avait eu la cuisse moins folâtre. Dans cette grande ruée qui va se faire, il faut te ménager des soutiens. Tu as le nôtre. Et ne t'avise pas d'écouter ton oncle de Bourgogne. Il ne te conduira pour son propre service qu'à commettre des sottises. Philippe Régent, fonde-toi là-dessus. » Ainsi, moyennant l'abandon définitif de la Navarre, Philippe de Valois disposait déjà, outre la sienne propre, de deux voix. Louis de Bourbon venait d'être créé duc quelques semaines auparavant, en même temps qu'il avait reçu en apanage le comté de La Marche. Il était l'aîné de la famille. Dans le cas d'une trop grande confusion autour de la régence, sa qualité de petit-fils de Saint-Louis pouvait lui servir à rallier plusieurs suffrages. Sa décision, de toute manière, pèserait sur le conseil des pairs. Or, ce boiteux était lâche. Entrer en rivalité avec le puissant parti valois eût été une entreprise digne d'un homme de plus de courage. En outre, son fils avait épousé une sœur de Philippe de Valois. Robert laissa comprendre à Louis de Bourbon que plus vite il se rallierait, plus vite lui seraient garantis les avantages en terre et en titre qu'il avait accumulés au cours du règne précédent. Trois voix. Le duc de Bretagne, à peine arrivé de Vannes, et ses coffres pas encore déballés, vit Robert d'Artois se dresser en son hôtel. « Nous appuyons Philippe, n'est-ce pas ? Tu es bien d'accord avec Philippe, si pieux, si loyal. Nous sommes certains d'avoir un bon rouage. Je veux dire un bon régent. » Jean de Bretagne ne pouvait que se déclarer pour Philippe de Valois. N'avait-il pas épousé une sœur de Philippe, Isabelle, morte à l'âge de 8 ans, il est vrai, mais les liens d'affection n'en subsistaient pas moins. Robert, pour renforcer sa démarche, avait amené sa mère, Blanche de Bretagne, consanguine du duc, toute vieille, toute petite, toute ridée et parfaitement dénuée de pensée politique, mais qui opinait à tout ce que voulait son géant de fils. Or, Jean de Bretagne s'occupait davantage des affaires de son duché que de celles de France. « Eh bien oui, Philippe, pourquoi pas, puisque tout le monde semblait s'y empresser à le désigner. » Cela devenait en quelque sorte la campagne des beaux-frères. On appela en renfort Guy de Châtillon, comte de Blois, qui n'était nullement père, et même le comte Guillaume de Hainaut, simplement parce qu'ils avaient épousé deux autres sœurs de Philippe. Le grand parentage valois commençait à apparaître déjà comme la vraie famille de France. Guillaume de Hainaut mariait en ce moment sa fille au jeune roi d'Angleterre. Soit, on n'y voyait pas d'obstacle, et même on y trouverait peut-être un jour des avantages. Mais il avait été bien avisé de se faire représenter aux noces par son frère Jean, plutôt que de s'y rendre lui-même, car c'était ici, à Paris, qu'allaient se produire les événements importants. Guillaume le Bon ne souhaitait-il pas depuis longtemps que la terre de Blaton, patrimoine de la couronne de France, enclavée dans ses états, lui fût cédée? On lui donnerait Blaton, pour presque rien, un rachat symbolique, si Philippe occupait la régence. Quant à Guy de Blois, il était l'un des derniers barons à avoir conservé le droit de battre monnaie. Malheureusement et malgré ce droit, il manquait d'argent et les dettes l'étranglaient. « Guy, mon ami parent, ton droit de battage te sera racheté, ce sera notre premier soin !» Robert, en peu de jours, avait accompli un solide travail. « Tu vois, Philippe, tu vois !» disait-il à son candidat. « Combien les mariages arrangés par ton père nous aident à présent ?» On dit qu'abondance de filles est grand-peine pour les familles. Ce sage homme, que Dieu l'ait en sa garde, a bien su se servir de toutes ses sœurs. « Oui, mais il faudra achever de payer les dots, » répondait Philippe. « Plusieurs n'ont été versés qu'au quart. »« À commencer par celle de la chère Jeanne, mon épouse, » rappelait Robert d'Artois. « Mais dès lors que nous aurons tout pouvoir sur le trésor, hein ?» Plus difficile à rallier fut le comte de Flandre, Louis de Crécy et de Nevers. Car lui n'était pas un beau frère et demandait autre chose qu'une terre ou de l'argent. Il voulait la reconquête de son comté, dont ses sujets l'avaient chassé. Pour le convaincre, il fallut lui promettre une guerre. « Louis, mon cousin, Flandre vous sera rendu, et par les armes, nous vous en faisons serment !» Là-dessus, Robert, qui pensait à tout, de courir de nouveau à Vincennes pour presser Charles IV de parfaire son testament. Charles n'était plus qu'une ombre de roi, crachant ce qui lui restait de poumons.